Bien, donc, nous voilà pour une nouvelle séquence consacrée au thème de la prière. Nous avons vu la prière sous plusieurs aspects. Nous l'avons vu la fois dernière sous l'angle de la prière qui rend humble. C'était l'exemple du pharisien et du péager. Nous avons eu l'occasion de voir un récit où la prière se structure avec Jérémie comme aussi une relecture de soi et une capacité de pouvoir faire face à notre histoire. Et là, avec cet épisode du livre de la Genèse, avec la mise en scène d'Abraham, nous allons voir deux choses. Tout d'abord, à quel point la prière est une interaction entre l'homme et le divin, et pas simplement une succession de monologues, voire un seul monologue.
Bonjour.
Et puis, voir à quel point, je dirais, la prière est un espace de liberté et même d'audace, en ce sens qu'elle ne suit pas forcément des paroles rituelles, elle peut en utiliser, nous le verrons, mais c'est vraiment le lieu de l'audace et c'est peut-être le lieu de l'apprentissage de la liberté. Et je vais essayer de vous le montrer, donc de la responsabilité. Alors, je vous donne juste un peu des éléments de contexte, puisque c'est dans l'épisode de Sodome et Gomorre. Alors, le nom est bien connu parce que c'est une ville qui sera... Enfin, ce sont des villes qui vont être détruite, c'est en tous les cas l'idée qu'on s'en fait. Sodome et Gomorre, on en reparle dans le Nouveau Testament en disant que l'iniquité, l'injustice était à son comble. C'est finalement vers le 19e siècle qu'il va y avoir un lien qui sera fait entre Sodome et Gomorre d'une part et puis la question de l'homosexualité d'autre part, où la figure de Sodome deviendra une sorte de métaphore. Mais dans le texte biblique, dans la tradition juive, et pendant de longs siècles d'histoire d'interprétation chrétienne, ce n'est pas du tout une histoire d'homosexualité, Sodome et Gomorre. C'est une histoire de non-altérité. Alors vous allez me dire, ça donne les prémices, mais j'y viens. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que Lot, Harry, est à Sodome. Des messagers de l'Éternel viennent dans cette ville parce que, nous allons le voir dans ce texte, Dieu se rend compte qu'il y a de la méchanceté dans cette ville. Donc, il mène une enquête. Les envoyés logent chez le patriarche. Et là, tous les hommes de la ville viennent encercler la maison et demandent à connaître les deux envoyés. Et dans la culture biblique, le verbe « connaître » est souvent utilisé pour désigner les relations sexuelles. Adam connut Ève, son épouse. Et voilà, c'est une sorte de métaphore, d'euphémisme peut-être, de la relation sexuelle. Et du coup, le terrain était propice à ce qu'on puisse se dire « Eh bien, en fait, le problème de ces villes, c'était... » l'homosexualité. La tradition juive est partie sur tout à fait autre chose. La tradition juive est partie sur le fait que c'était une ville où l'hospitalité n'existait pas, au sens où l'étranger n'était pas reconnu pour ce qu'il était. Il n'était pas reconnu dans sa singularité. Et ce que dit la tradition juive, c'est que lorsque quelqu'un arrivait dans ces villes, on le mettait au lit au singulier, et s'il était trop grand, on coupait ce qui dépassait. S'il était trop petit, on tirait jusqu'à ce qu'il ait la bonne taille. Et donc, c'est la manière que la tradition juive a eue de montrer une ville qui ne respecte pas les personnes pour ce qu'elles sont et qui essaie de les conformer à un modèle. Et de ce point de vue-là, il y a un manque d'altérité. Et c'est ça qui pose problème. Qu'est-ce qui permet d'attester cette vision des choses ? Il me semble que ce texte est à prendre en parallèle avec Genèse 11, qui est le récit de la tour de Babel. Et nous allons le voir dans le corps du texte. Dieu fait exactement la même chose avec Sodome qu'avec Babel. C'est-à-dire, il descend pour voir ce qui se passe. Et le problème de Babel, c'est pas l'histoire de vouloir se rapprocher de Dieu. C'est d'avoir une seule langue et de se faire un seul nom. Autrement dit, c'est le problème de la pensée unique. Et quelle va être la réponse de Dieu à Babel ? C'est la pluralité des langues. Et les gens vont être dispersés à la surface de la terre. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'essayer de se comprendre. Parce que le grand drame, à mon avis, auquel l'épisode de Babel essaie de répondre, c'est les gens qui, pensant parler la même langue, ne prennent plus la peine d'essayer de se comprendre. Et se faisant un même nom, imagine que la fraternité est acquise d'office, alors qu'il s'agit à chaque fois d'être acteur de cela. Voilà pour le contexte large. Est-ce que c'est à peu près clair ? On peut se lancer dans notre récit ? Bien. Alors, je vous propose de le prendre verset après verset, plutôt que de le lire une seule fois. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez toujours intervenir, bien sûr, soit pour poser des questions, donner des éclaircissements. Et exprimer aussi des désaccords. Donc, nous sommes dans le chapitre 18 du livre de la Genèse. Abraham a reçu la visite de ses deux messagers et ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome, puisque c'est là qu'ils doivent se rendre. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc, là, il y a deux petites choses que j'aimerais vous montrer. Tout d'abord, dans l'hébreu, c'est une formule très contemporaine, anioce, c'est-à-dire, au lieu de traduire ce que je vais faire, c'est ce que je suis faisant. C'est une formule très contemporaine parce que dans l'hébreu biblique, on a des conjugaisons très précises qui permettent de ne pas avoir de sujet en termes de pronom personnel, parce que la forme du verbe donne à la fois le mode, le temps et le sujet. Et là, en fait, on a une conjugaison moderne, comme l'hébreu moderne, c'est-à-dire on met un pronom personnel sujet, « je », et puis on met le verbe au participe présent. Donc, « je suis faisant ». Aujourd'hui, on ne dit pas « je mange », on dit « je suis mangeant », on ne dit pas « je ». Voilà. Et donc, là, on a une formule assez moderne. L'autre chose, c'est de découvrir que l'Éternel, donc c'est la traduction du tétragramme, le nom propre divin, aurait quelques scrupules. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Autrement dit, comment est-il possible de ne pas le mettre dans la confidence ? Et on voit ensuite deux versets qui sont, à mon avis, la suture de deux sources de la Genèse. Le premier, c'est le verset 18. C'est donc Dieu qui parle dans une sorte de colloque intérieur. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Est-ce que ça évoque un autre passage ?
L'envoi de Dieu d'Abraham par Dieu ?
Alors ça, c'est effectivement en Genèse 12, c'est le début de la vocation.
Pour sortir de son père.
Oui, exactement.
Il montre pour regarder au ciel.
Alors ça, oui, effectivement, ce sera un peu plus tard en Genèse 15, mais dès Genèse 12... Quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, sa famille, c'est c'est Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Et le verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc vous voyez, on est quasiment dans l'ordre de la citation de Genèse 12, verset 2. Et on a ensuite quelque chose qui n'apparaît pas en Genèse 12, verset 2, c'est « car je l'ai choisi, donc Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Est-ce que là, vous avez une idée du texte qui est cité? Alors, je vous donne la réponse. C'est pas... Non, si vous n'avez pas la réponse, je vous la donne. Je ne suis pas là pour vous enquiquiner. Hein. C'était au cas où vous ayez une autre idée que la mienne. C'est Genèse 17, les versets 9 et 10. Les versets 9 et 10 disent ceci. « Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toute leur génération. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » C'est important parce que ces deux versets sont mis ensemble ici, alors qu'ils sont séparés au préalable. Et alors ça tient au fait qu'il y a plusieurs traditions dans le livre de la Genèse. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les traditions yavistes et sacerdotales. On a Genèse 15, et on a Genèse 17, qui disent en fait la même chose, mais avec deux cultures différentes. Genèse 15, c'est exactement ce que tu disais quand il s'agit de regarder les étoiles au ciel et de constater que la succession d'Abraham sera aussi nombreuse que ses étoiles. Et c'est dans ce récit, Genèse 15, que pour sceller l'alliance, couper l'alliance, le terme le dit bien, on va couper des animaux en deux, et Dieu et Abraham vont passer au milieu de ces animaux. Et c'est le rite imprécatoire dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on fait alliance, et si on a un des deux qui rompt l'alliance, alors il finira comme les animaux coupés. Et donc ça, c'est une tradition plutôt idéaliste. Donc on l'appelle J parce que ce sont les Allemands qui ont repéré cette classification. Et donc il y avait, c'est avec un J en allemand. Genèse 17, en revanche, l'alliance ne se fait pas avec un animal coupé en deux, comme c'était le cas le plus souvent dans la tradition proche-orientale. Ça se fait avec la circoncision. C'est là qu'on instaure la circoncision qui est le signe de l'alliance. Et on ne coupe pas l'alliance, on la lève, avec le verbe « cum », lever, au « ifil ». Et donc, ça, c'est une tradition sacerdotale. Et donc, ici, on voit, c'est pour ça que je parlais de suture, deux traditions qui vont être jointes. Genèse 12, ce verset qu'on a lu, étant repris dans Genèse 15. Alors, quand je dis que ces deux traditions se rejoignent, dans mon esprit, c'est pour montrer que lorsque la Bible a été composée, il n'y a pas eu de caviardage. On n'a pas essayé d'estomper des zones dont on n'était pas spécialement fier, des pratiques qui n'étaient pas forcément glorieuses. Non, en fait, on a compilé et on a assemblé. Alors des fois, ça donne un petit peu des tensions, voire des contradictions. Mais l'idée était de pouvoir garder l'ensemble de la mémoire d'Israël qui reflétait finalement une mémoire aussi proche de la vérité parce qu'elle permettait d'associer des points de vue différents.
Et quand est-ce que ça a été rédigé et assemblé?
Si on suit cette théorie d'assemblage... ce qu'on appelle la théorie documentaire, on a plusieurs documents à disposition et on va les rassembler. ce serait au moment de l'exil à Babylone, donc le 6e siècle, pour ce genre de texte. Et les textes qui vont être plus récents. Hein. Bon. Finalement, le texte s'appuie sur plusieurs traditions, mais c'est pas. Voilà, je vous donne quelques éléments qui sont plus culturels qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de profiter aussi de l'hébreu, parce que le mot qui est traduit par promesse, dans le verset 19, c'est pas un mot tout à fait anodin, c'est le mot dabar. Alors le dabar, vous en avez déjà certainement entendu parler, vous entendrez encore parler. On lui fait dire beaucoup de choses à ce dabar. Il apparaît pour la première fois dans le récit du déluge, la sortie de l'Arche d'Alliance. Et souvent on dit le dabar, c'est la parole créatrice. Ouais, sauf qu'en fait, on ne l'utilise pas dans les récits de création. Dans les récits de création, c'est-à-dire au Genèse 1 notamment, où Dieu n'arrête pas de parler, Dieu dit, c'est pas dabar, c'est amar. Et je dirais que... Alors, c'est Mark Anna Watnin qui essayait de voir un peu les différences entre les deux. Il disait, le dabar, c'est la parole qui est un peu comme... comme une parole structurante, une parole contractuelle, disons. Finalement, une parole d'alliance, c'est une parole contractuelle. Une promesse, c'est une parole contractuelle. Je dis ce que je vais faire. Et le amar était un peu comme, pour reprendre l'expression de Lévinas, l'au-delà du verset, c'est-à-dire le mot qui dépasse les structures classiques du langage pour être vraiment dans le registre de la création. On pourrait dire que c'est de l'ordre de la poétique. Vous savez, c'est toute la différence entre des gens qui s'expriment et puis des gens qui nous bouleversent en parlant et qui reconfigurent le monde. Et ben, le amar, ce serait cette parole créatrice, cette parole qui rend possible ce qui était impossible. Alors que le dabar a tendance à fixer les choses. Pas péjoratif quand je dis fixé, mais voilà, structuré. Et donc la promesse ici, elle est dans ce registre-là. Vous voyez qu'il y est question de pratiquer la droiture et la justice. Le mot justice, mishpat, c'est là qu'il apparaît pour la première fois dans la Bible. Et dans une certaine mesure, on pourrait se dire que c'est du coup un texte fondateur par rapport à la question de la justice, parce qu'il y a une tradition dans l'interprétation talmudique, donc toujours l'interprétation juive, c'est celui de la première occurrence. C'est-à-dire que la première occurrence donne un peu la tonalité pour la suite du sens. Et donc, quelqu'un qui s'intéressera à la justice ira voir ici dans quel cadre. Et justement, je pense que c'est un texte qui travaille sur la notion de la justice au plan individuel. Quant à la droiture, c'est tzedaka. C'est un terme qui est souvent utilisé aussi, enfin souvent traduit par justice, mais quand on a tzedaka et mishpat côte à côte, on ne peut pas traduire justice et justice, donc droiture et justice. Bien. Ensuite, l'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » Énorme. Alors, c'est pas inintéressant, le péché énorme. Donc, c'est bien le mot péché, « rata ». Mais le côté énorme est assez intéressant. Parce que en fait, il est... grave. Non, c'est lourd. C'est kabda meod. Et kabda, Donc c'est le mot kavod ici. Je vais prendre un truc qui marche mieux. Kavod, c'est un terme que beaucoup de gens qui sont très attachés au modèle familial classique utilise, puisque c'est un mot qu'on trouve dans le décalogue, dans les 10 commandements, au sujet des parents. Il faut cavoder ses parents afin que ses jours se prolongent sur la terre que Dieu nous donne. Et vous voyez, cavod ici, c'est pas vraiment employé dans un sens très, très positif, hein, puisque ici, c'est le péché énorme. En fait, ça veut simplement dire lourd. C'est un verbe qui veut dire la pesanteur. Et donc, le péché est très lourd. Et vous voyez, c'est souvent traduit par « tu glorifieras tes parents », le décalogue. « Tu glorifieras tes parents afin que tes jours se prolongent ». Et alors souvent, les parents mal intentionnés utilisent cet argument pour intimider les enfants en disant « c'est écrit dans la loi de Dieu que si tu ne me glorifies pas, ça va mal finir pour toi ». Il faut bien prendre conscience que la traduction n'est pas aussi orientée que cela. Enfin, plutôt si la traduction est orientée, mais le texte original est beaucoup moins orienté. Le texte dit simplement « Tu chargeras tes parents afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu te donne. » Donc, Daniel Siboni, qui était venu ici, avait expliqué cela. Il convient de laisser aux parents ce qui leur appartient et de ne pas se charger de ce qui ne nous appartient pas. Et c'est ainsi que notre vie se prolonge, parce qu'on ne s'épuise pas inutilement. Donc, c'est le fameux droit d'inventaire. Et donc, vous voyez, ça serait effectivement bizarre de dire que leur péché est glorieux. Si on traduisait de la même façon, on dirait « L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est glorieux. » Non, le péché est lourd, très lourd. « Kavda merod. » Alors, toute la question est de savoir quelle est la nature de ce péché. Alors, on ne va pas en parler dans ce texte-là, mais dans les petits éléments de contexte que je vous ai donnés, hein, je vous ai dit que, manifestement, le péché, c'était le refus de l'altérité, le refus de reconnaître l'autre comme indissemblable. Et vous savez que quand on veut un seul modèle familial, bah, du coup, ça devient un modèle homo, en fait, hein, ou mono, en tout cas. Alors, le verset 21, c'est justement là que nous avons l'élément que je faisais correspondre avec Genèse 11, versets 5 et 7, l'épisode de Babel. L'Éternel dit « C'est pourquoi je vais descendre ». Avec une insistance, puisque c'est « yarad »,« descendre », avec le « na » intensif. « C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agit entièrement selon le bruit. » Et alors, en Genèse 11, au verset 5 et 7, pour bien vous prouver que je ne vous raconte pas de carabistouille, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » Et au verset 7, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Donc, vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique. Il y a fort à parier qu'il y ait là une même tradition, avec les mêmes tics d'écriture. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu les traditions, c'est parce qu'on utilise le même vocabulaire, les mêmes expressions. Et puis, si ce n'est pas la même tradition, ce n'est pas très grave. En tous les cas, il y a une correspondance entre ce texte et l'autre, même si ce n'est pas la même main. Et alors là, c'est quand même assez frappant sur le plan théologique. Hein. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Quelles conséquences théologiques peut-on tirer de cela ? C'est-à-dire, quel enseignement sur le divin peut-on avoir avec une phrase de cette nature ? Il n'est pas omniscient. Le personnage en question. Il ne sait pas tout. Il n'y a pas de science infuse. Il est obligé de mener une enquête. Il est obligé de se déplacer sur place. Donc, vous voyez, si on a l'idée d'un Dieu effectivement, omniscient, c'est le terme technique, c'est-à-dire qui saurait tout immédiatement, c'est un texte biblique qui résiste à cette vision des choses. C'est un texte biblique qui dit que Dieu se renseigne pour savoir. Et par rapport à notre thématique de la prière, cela peut laisser entendre que, du coup, une prière est susceptible de pouvoir informer le divin. On va y revenir après, quand on sera vraiment au cœur de la prière entre Abraham et Dieu. Mais il y a cette idée que si le divin n'est pas omniscient, s'il ne sait pas tout, alors cela signifie qu'il est nécessaire de porter à la connaissance du divin tel ou tel aspect des choses ou de l'histoire. Ensuite, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Donc, Abraham ne les accompagne pas jusqu'au bout, en dépit de ce qu'il avait dit au départ. Il s'arrête en cours de route. Donc là, on a certainement une des deux traditions. C'est-à-dire que le verset 16 n'est pas de la même tradition que ce verset 22. Et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors, dans l'hébreu, on a Abraham qui est Omed Lifne Yahou. Et ça, ça vaut le coup que vous l'ayez un peu dans les yeux. On a le verbe Amad. Hamad, qui veut dire se tenir debout. Donc on retrouve l'idée de la prière debout, Hamad.
Et Koum, c'est pas debout.
Se lever. C'est se tenir face aussi. Et alors, le face va être expressément dit avec l'ifnei. Si je vous donne le verbe, enfin le mot, c'est parce que c'est un pluriel en fait. C'est-à-dire que pan, c'est la face, et panei, ce sont les faces, deux, c'est construit. Donc on va avoir ici le tétragramme. Donc c'est pas simplement devant Dieu, c'est devant les visages de Dieu. Devant les visages de l'Éternel, plus exactement. Et c'est la raison pour laquelle on a peut-être le nom commun de Dieu, qui est Elohim, qui est un pluriel. C'est-à-dire que il serait fou de penser qu'il y a une sorte d'unicité chez Dieu. Dieu intègre la dimension plurielle, et ça se traduit même dans un face-à-face avec le divin. On a toujours accès à plusieurs visages de Dieu, peut-être plusieurs personnalités. En tous les cas, l'idée que Dieu ne se réduirait pas à une seule facette. Donc, vous voyez, je pense que là, on a, de façon narrative, la meilleure des définitions de ce qu'est la prière. La prière, c'est se tenir devant les faces de l'Éternel. Tout le reste, je ne dis pas que c'est de la littérature, mais c'est votre part personnelle, notre part personnelle. On va voir chez Abraham comment ça va s'incarner. Mais prier, qu'est-ce sinon se tenir dans la position du ressuscité, disons, c'est un peu anachronique, mais se tenir debout face à l'Éternel. Vous voyez, c'est autre chose que se tenir en présence de l'Éternel. C'est devant les faces de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Alors Dieu n'est pas omniscient, mais Abraham, visiblement, il l'est.
Et Abraham s'approcha, il s'approcha de quelle manière ?
De quelle manière ?
Eh ben, comme le texte ne dit pas qu'il s'est mis à plat ventre pour ramper, comme ça pouvait se faire dans les cours royales du Proche-Orient ancien, on imagine qu'il s'est mis à marcher tout simplement. Et donc, le texte ne dit pas que Dieu a prévenu Abraham de quoi que ce soit, mais on dit qu'Abraham est au courant de ce qui va se passer. Donc, voilà. Je laisse ça à votre méditation. On ne va pas remplir les blancs d'écriture. Je vous laisserai faire ça dans votre propre méditation, quand vous ferez vos prédications là-dessus, etc. Mais peut-être que le verset 23 n'est pas le premier mot du dialogue qui s'engage entre Abraham et l'Éternel. Peut-être que est passé sous silence le moment où Abraham est mis au courant. Plus vraisemblablement, Abraham a été mis au courant par les personnages qu'il a rencontrés au préalable. Mais je m'arrête quand même juste une petite minute sur cette question de la science, disons, du savoir, ce qui arrive. Parce que on a vu un Dieu qui n'était pas au courant de tout. On voit un Abraham qui est au courant de plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, on peut se demander comment on a accès à ce savoir-là. Comment on est mis au courant de ce qui arrive et de ce qui peut arriver. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Noé qui est sorti il y a un an et demi. Bon, c'était un grand film hollywoodien qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Il représentait l'arche comme une arche, ce qui est toujours problématique. Mais il y avait un moment qui était assez intéressant. C'est quand Noé est en train de discuter avec, ça doit être son grand-père. Et en fait, ils sont en train de raconter ce qui se passe sur Terre, la méchanceté qui arrive, etc. Et en racontant cela, il continue simplement l'histoire. Et en fait, il raconte là où ça va mener si ça continue comme ça. Et c'est là, selon le scénariste, qui à mon avis s'en sort bien sur cette question-là, c'est là que Noé prend conscience que finalement, il va y avoir une sorte de déluge de méchanceté. Et que la seule façon de s'en sortir, c'est de se réfugier dans un bateau, disons. C'est dommage parce qu'un déluge de méchanceté, c'est une métaphore intéressante. Et puis le bateau, qui ressemble à un bateau, c'est plus une métaphore. Bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, peut-être, là je remplis les blancs de l'écriture, peut-être peut-on imaginer que le dialogue entre Abraham et ses deux messagers, qui sont là pour porter l'être, je reprends une expression de Daniel Siboni, c'est-à-dire pour que chacun ne pense pas simplement sa vie en fonction de ses besoins, de ses désirs, mais en fonction de quelque chose de plus universel. Et en pensant à cette vie pensée de façon plus universelle, ils se disent à quel point ce qui se passe à Sodome et Gomorre est invivable, et à quel point ça ne peut pas durer en l'état, à quel point ça court la catastrophe, à quel point, finalement, la situation est en train de devenir stérile, puisque le refus de l'altérité, c'est la stérilité. Et donc, peut-être qu'Abraham est au courant de ce qui va se passer, non pas parce que Dieu aurait prévu un châtiment pour ces villes-là, mais parce que ces villes sont en train de préparer leur propre châtiment. C'est-à-dire que si on regarde comment fonctionne l'ensemble de ce récit, on a le divin qui s'inquiète de savoir ce qui se passe dans cette ville et qui va envoyer des messagers à la fois pour être au courant et éventuellement pour changer le cours de l'histoire. De même qu'il va envoyer Jonas à Ninive pour que Ninive cesse de s'enfoncer dans une impasse. Et parce que Jonas va pouvoir faire son travail de prophète, il va y avoir une grande repentance à Ninive qui du coup va être sauvée. Et c'est Jonas même qui va dire « Moi j'aurais préféré qu'il y ait un gros châtiment pour Ninive ». Et c'est Dieu qui va lui faire prendre conscience que le pardon est quand même plus intéressant. Et ici, l'épisode de Sodome et Gomorre montre finalement le divin comme ce qui ne laisse pas Sodome et Gomorre s'enfoncer dans une mauvaise pratique qui irait à l'encontre de la droiture et de la justice. Alors, le verset 23, Abraham donc s'est approché et il dit « Feras-tu aussi périr le juste et le méchant ?» Un peu le bon grain est livré finalement. Or, on sait qu'il ne faut pas essayer d'arracher la zizanie ou le livret quand elle pousse au milieu du bon grain. Il faut attendre que tout pousse et puis après on retire. Bon. Et là, Abraham va commencer sa négociation de marchand de tapis. Écoute, Éternel, peut-être que dans cette ville vraiment épouvantable, nous trouverions 50 justes. Et est-ce que ces 50 justes, tu vas les faire périr avec les autres? Est-ce que tu ne pardonnerais pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Bon, je ne suis pas sur le fait que ce n'est pas toujours le mot « ville », des fois c'est le mot « makom » qui veut dire « lieu ». C'est intéressant parce que la façon de faire d'Abraham est contradictoire avec ce qu'Ézéchiel va dire sur la question de la responsabilité individuelle. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, par exemple le verset 20 ou le verset 30, va dire à peu près l'inverse. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et puis au verset 30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes afin que votre faute ne soit pas une perte d'achoppement. Autrement dit, chacun reçoit pour lui-même. C'est l'idée que c'est pas parce que nos parents ont mangé des raisins verts que nous devons avoir les dents agacées. C'est pas parce que un père a été exemplaire durant sa vie que son voyou de fils doit être exempté de reproches. Et bien là, Abraham pose l'idée d'une responsabilité collective, au sens où la bonne pratique de quelques-uns pourrait rejaillir sur l'ensemble. Donc, c'est un peu le principe de la responsabilité collective à l'envers. Une responsabilité positive collective. Chacun n'est pas payé pour ce qu'il a fait. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Autrement dit, on a un Abraham qui a tendance à se contredire un peu. Alors est-ce que c'est les deux traditions ou pas? Parce que quand il dit... en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Ce n'est pas possible de traiter le juste comme le méchant. Or, c'est bien ce qu'il propose. Sauf qu'il propose de traiter le méchant comme le juste. Il décide de pardonner grâce au juste, plutôt que de condamner à cause du méchant. Mais dans les deux, ça revient un peu au même. Il y a une sorte de contamination des uns par les autres. En tout cas, il n'y a pas un règlement de la question individuellement. Quand il est écrit « loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi », c'est en fait au début du verset en hébreu. « Ralila lora me'asat kedabar », c'est-à-dire que « loin de toi, faire cette parole ». Et c'est cette parole au sens de « dabar ». Vous voyez, c'est un peu le décret. Ce n'est pas la parole qui fait vivre, justement. C'est plutôt une sorte de... oui, une sorte de décret, quasiment... un jugement, mais on a déjà eu les mots jugement avant. Donc, on a Abraham qui, d'un côté, pose ce qui serait un peu comme une sorte de loi en forme d'épouvantail. Tu ne vas pas ressembler à ça. Et puis, de l'autre, un Abraham qui essaie de saisir Dieu par les tripes, pour autant qu'il en est, en lui faisant comprendre qu'on ne peut pas mettre les deux catégories de personnes sur le même plan, et en tous les cas, pas sur le plan de la criminalité. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Donc, c'est l'idée que la justice, dans l'Ancien Testament, c'est faire droit à la victime. C'est pas une histoire de condamnation, c'est pouvoir dire le droit et de pouvoir réparer le tort qu'a subi la victime. Et donc, si on accuse et qu'on condamne des innocents, des justes, forcément la justice est mise à mal. Et donc, pour éviter que Dieu se dédie en quelque sorte, Abraham essaie de lui faire prendre conscience de ce qui risque d'arriver. Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. » Donc, ça marche. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Alors là, on a une formule rituelle que l'on va retrouver au verset 31. « J'ai osé parler au Seigneur. » Et c'est même « J'ai osé parler à mon Seigneur. » Et alors là, ce n'est pas le Seigneur comme la traduction du tétragramme, c'est bien Adonai. Donc Adonai, c'est Adon Seigneur, avec le yod à la fin, mon Seigneur, Adonai. Alors souvent, c'est... Ainsi que la tradition juive traduit le nom propre de Dieu. Au lieu de dire l'Éternel, ils disent Adonai, ce qui est une sorte de confession de foi. Et donc, j'ai osé parler au Seigneur, à mon Seigneur. Ça, c'est vraiment la formule de déférence classique, mais c'est aussi la formule de l'audace. C'est pour ça que je vous disais que la prière pouvait être un espace de liberté et d'audace. C'est parce que ça ne se fait pas, en fait, de parler à un supérieur sans avoir reçu l'autorisation. On le voit avec le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on rappelle qu'on ne peut pas prendre la parole... pour s'adresser au roi sans avoir reçu l'autorisation de lui, sinon on meurt, on se fait exécuter. Et pour recevoir l'autorisation, effectivement, le roi tend le sceptre que l'on peut toucher, et donc là, on est autorisé à parler. Et Esther va faire preuve d'audace en allant auprès du roi, prenant la parole, et le roi la justifiera en lui tendant son sceptre. Mais elle fait les choses dans le mauvais sens, en quelque sorte. Et donc... ici, on a un Abraham qui, finalement, fait un crime de lèse-majesté. Le crime de lèse-majesté, c'est de prendre la parole sans y avoir été vraiment autorisé. Ce qui laisse entendre dire, ce qui laisse entendre plutôt, que Dieu n'avait pas encore prévenu Abraham de ce qui allait arriver. Parce que s'il y avait déjà eu un dialogue entre eux, Abraham n'aurait pas besoin de se justifier en disant « qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai osé parler. » Ça peut être considéré comme blasphématoire. Bien. Et alors donc là, la négociation de marchand de tapis, il s'y prend bizarrement, hein, parce qu'en principe, on descend de 50% facile, et lui, il passe juste de 50 à 45. Et là, en fait, c'est quand même mauvais signe. Parce que moi, je pense qu'Abraham a loupé sa négociation. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Mais peut-être que déjà, en passant de 50 à 45, c'était mauvais signe. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 pour 5 ? Détruirais-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continuait de lui parler. Et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être, alors ça c'est encore une formule rituelle qu'on trouvera aussi au verset 32. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. C'est quasiment juste 30. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, donc il reprend l'autre formule rituelle. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette négociation ?
Hein ? Ça laisse un peu d'interrogation.
Oui ?
On s'est arrêté à 10.
Oui.
Parce qu'on aurait pu aller à 1 juste.
1. Pourquoi 1 ? La tradition juive
a une expression.
Hein ?
Aussi.
Moi, je trouve que le zéro, c'était la bonne, c'était le bon terminus.
Et pour prier chez les juifs, il faut un certain nombre de. Je
crois il faut être 10. Hein, pour qu'il y ait la lecture de la Torah dans la synagogue, il faut être 10. Et 10, c'est aussi le nombre qu'il faut pour qu'une ville puisse fonctionner. Il faut 10 justes dans une ville pour que la ville puisse fonctionner. Alors ça s'appuie notamment sur ce récit-là. Dans une autre tradition, je crois qu'il faut 12 justes pour que le monde ne se défasse pas, je crois. 12 ou 13. Il y a eu une série à la télé il n'y a pas très longtemps. Personne n'a vu ça ? De 13 justes, non ? 12 justes ? Bon, je sais plus. Toujours est-il que la tradition juive a retenu ce nombre de 10 comme un minimum en dessous duquel ce n'est plus viable. Évidemment, c'est aussi en lien avec les 10 paroles. Mais la question se pose hein, de savoir si 10, c'était le bon seuil. Moi, je trouve qu'on a là, en fait, et c'est là l'intérêt de la prière, une sorte d'expérience de 1000 grammes à l'envers. L'expérience de 1000 grammes, c'est la capacité que nous avons toutes et tous à pouvoir obéir à une autorité, quitte à infliger des sévices sur quelqu'un. L'expérience de 1000 grammes, c'est une expérience qui a été faite dans les années 60 aux États-Unis, par petites annonces tout à fait anonymes, dans un cadre a priori purement scientifique. Il fallait des expérimentateurs et des cobayes. Et en fait, c'était présenté comme une expérience pour améliorer les méthodes d'apprentissage. Et donc, je ne sais plus quelle était exactement la consigne, mais il y en avait un qui était donc l'expérimentateur et qui devait donner, disons, une suite de mots que l'autre devait apprendre par cœur. Et s'il se trompait, petite décharge électrique. Et puis on montait en intensité. Et alors c'était un protocole très précis et on n'avait pas indiqué le nombre de watts, mais on avait indiqué petite douleur, douleur, grande douleur, devient insupportable et puis risque mortel. Et le cobaye, en fait, était un acteur. Il n'y avait pas de courant électrique. Mais il y avait donc quelqu'un qui, lui, pensait être dans le cadre d'une expérience scientifique, va aller donner, par exemple, une liste de mots, et à chaque fois, il infligeait donc une décharge s'il y avait une erreur dans la restitution. Et à côté de lui, il y avait donc le responsable de l'opération scientifique qui était là éventuellement avec un protocole très précis pour l'aider à donner la décharge électrique si la personne commençait à hésiter ou pas. Bon. Toujours est-il que le résultat a été assez intéressant. J'ai plus le chiffre en tête. Mais grosso modo, 70 personnes ont infligé des décharges quasiment mortelles. Pour la science. Pour la science. Et je crois que... 70%. 70%. Et on retrouve un peu cela, je crois, dans un film avec Yves Montand. C'est peut-être I comme Icare. Et lui, Yves Montand, qui est là de passage, finalement s'en va au milieu de l'expérience parce qu'il n'en peut plus. Et le laborantin lui dit, vous avez quand même tenu jusqu'à ça. Avant d'être suffisamment scandalisé pour dire que vous ne pouviez plus supporter. Et je crois que c'est intéressant de faire ce lien parce que ça nous montre que la prière est peut-être une sorte de laboratoire où nous aiguisons notre sensibilité à l'autre et notre capacité, je dirais, d'indignation, pour prendre un mot contemporain. C'est-à-dire qu'on affûte notre capacité à nous révolter face à l'injustice, face à la barbarie. La prière comme intensification de notre sensibilité, je dirais, nous réveiller de notre anesthésie qui s'habitue finalement des violences quotidiennes et de l'injustice ordinaire. Ressusciter notre capacité à nous émouvoir de ce que nous voyons d'horrible et qui ne l'est plus à force de le voir.
C'est tzadik, je crois, le terme pour justice.
Oui, on l'a vu, c'est ça, tzadak, et donc tzadik, c'est le juste.
Le juste, mais qu'est-ce que c'est qu'être juste, selon la tradition juive ?
Celui qui va être juste, on l'a d'ailleurs dans ce verset, c'est celui qui va garder les voies de l'Éternel, marcher dans ses voies, autrement dit, celui qui va rendre vivantes les paroles qui donne de l'importance aux individus, qui donne de l'importance à la liberté de l'individu, et donc celui qui ne va pas, au contraire, réduire l'univers de la personne.
La justice, oui. La justice et le droit, pour les chiffres dans la loi, est différent que la justice. Comme ici, c'est la justice et le droit de Dieu.
Oui.
C'est différent.
En principe, il ne devrait pas y avoir de différence. C'est-à-dire que c'est la justice et le droit de Dieu qui devraient nous inspirer. Ouais. C'est pour cela que tout l'Évangile dit qu'on ne peut pas se contenter de la loi des pharisiens, qu'il faut faire mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter du dabar, il faut être dans le amar, c'est-à-dire la parole créatrice. L'Évangile, c'est bien... C'est pour ça que souvent on dit que l'Évangile, c'est quand même plus que la morale. Là où on peut dire que la morale, c'est de stabiliser les choses, éviter les conflits, par exemple, l'Évangile, c'est de tisser des liens entre les personnes, que les personnes soient capables d'amour. Et donc c'est au-delà de la morale, c'est au-delà du droit. Par exemple, en France, le droit, c'est essentiellement un droit qui évite qu'on cause du tort à quelqu'un d'autre. Mais le droit et la justice de Dieu, c'est devenir l'artisan du bonheur de l'autre. Vous voyez, c'est un peu plus que cela. Donc, moi, à titre perso, je pense que la négociation est ratée, parce qu'il n'est pas allé assez loin. C'est déjà bien. Mais finalement, quel résultat ? Aucun, puisque on n'aura pas trouvé les 10 justes à Sodome. Alors, la famille de Lot va échapper.
Parce que je crois qu'il accueille des étrangers, Lot.
Oui, il accueille justement ces deux personnages.
Ah, c'est ça.
Et puis comme justement tout le village veut connaître les deux personnages, Lot, très généreusement, dit « Non, prenez plutôt mes filles. Oui. Faites ce que vous voulez avec elles. » C'est une générosité, je veux dire, c'est d'une justice merveilleuse, quoi. Il a un sens de l'hospitalité très développé. Il y a ensuite au chapitre 19, la suite. Et j'aimerais vous relire un verset de ce chapitre 19. J'en avais fait une prédication il y a quelque temps. Alors, comme je n'ai pas noté le verset, ça va être une catastrophe. Mais je vais quand même essayer. Non, c'est Dieu qui dit à Abraham qu'il ne peut rien faire tant qu'il est là.
Ah oui, c'est vrai. dépêche-toi parce que.
Bon, c'est ben. Non. Toc, toc, toc. Ah voilà, c'est ça, c'est le verset 22. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Donc, Lot doit s'enfuir pour être préservé, et Dieu dit, dépêche-toi parce que je ne peux rien faire tant que tu n'es pas arrivé à cette ville. Et Jean Calvin, dans une série de lettres, le cadre d'une controverse avec un certain juif, reprend ce verset-là pour dire que Dieu n'est pas tout-puissant, au sens où il reprend le verbe « yakar » qui signifie « je ne suis pas capable de détruire tant que tu n'es pas arrivé ». Et donc Jean Calvin, bien avant Wilfred Monod, débusque dans ce passage un indice que Dieu ne peut pas tout parce que l'homme, finalement, a son espace de liberté, de responsabilité, et que c'est l'homme et l'homme seul qui peut intervenir sur ces situations-là. Et c'est assez frappant parce que un peu plus tôt, on a vu que Dieu n'est pas omniscient, et là, dans ce passage-là, on voit que l'omnipotence de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est aussi remis en cause par ce texte. Alors, l'opération Gomorre, vous pourrez le reprendre dans Genèse 19. Comme j'avais fait la prédication dessus, je ne vous en donne pas plus de détails. Peut-être qu'on peut y voir autre chose que la simple destruction. Il va y avoir une vraie destruction avec l'opération Gomorre, mais ça sera en 1944. C'est Hambourg. La destruction d'Hambourg, ça s'appelle l'opération Gomorre. Et alors là, effectivement, ça a été le soufre, quoi. La façon dont Genèse 19 parle de Sodome et Gomorre pourrait laisser entendre, c'était le sens de ma prédication, vous allez vous moquer de moi, mais c'est une sorte d'euphémisation, le travail du jardinier. Le travail du jardinier, pourquoi ? Parce que le soufre, c'est ce qui est utilisé pour combattre les nuisibles dans l'agriculture, même l'agriculture biologique. Et puis en fait, le verbe qui est utilisé a été traduit de façon assez intéressante par la Vulgate. Ce que fait Dieu, c'est de subvertir. C'est comme s'il retournait la terre, comme s'il retournait Sodome et Gomorre. Comme on retournerait la terre pour permettre une nouvelle germination. Comme les Américains font, comme les Corses font pour renouveler la végétation, ça s'appelle l'écobuage. On brûle, ça permet de supprimer toutes les broussailles inutiles et de faire accélérer la germination sous terre. Bon, ça permet aussi de dégager l'espace, et notamment chez les autres, mais bon, parfois.
Il est dit dans la tradition juive que Dieu a créé le monde et l'homme, et qu'ensuite il s'est retiré et pour laisser le monde libre, justement.
Oui, alors ça, c'est le principe du Tzimtzum, Dieu qui au départ crée et puis il se retire pour les hommes faire. Donc, ça, effectivement, c'est une compréhension. Il peut y avoir une autre compréhension, c'est que l'être même de Dieu, l'essence de Dieu, ne lui permet pas d'intervenir sur ce genre de situation concrète. En revanche, Dieu, c'est ce qui aiguise notre conscience pour que nous intervenions. Et que nous ne nous tournions pas de ces situations sur lesquelles nous pouvons intervenir et pour lesquelles notre sens moral, pour le coup, nous dicte d'intervenir. Parce qu'on sent bien qu'Abraham comprend que c'est sa responsabilité d'intervenir. Simplement, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il n'est pas allé comme Dieu avec Jonas, par exemple. Du coup, ce texte nous dit aussi que l'avenir, ce n'est pas tant ce qui va arriver, au sens où on pourrait en faire des prédictions, que ce que nous allons faire. Et ce texte met en évidence que la prière, c'est ce moment où nous prenons conscience de ce qui nous incombe, et que nous prenons conscience des lieux où nous devons nous tenir en face, et ne pas fuir nos responsabilités, pour prendre une expression assez courante. Y a-t-il encore des points à éclaircir ?
Comme tout à l'heure, on a dit que s'approcher, c'est en écoutant jusqu'au bout.
Oui.
Ça, c'est pour la prière intercession à Dieu, c'est comme on approcha, on suppliait les choses que notre intime, c'est de supplier à Dieu. C'est comme ça pour dire en plus pour les uns les autres. Moi, je ne sais pas, sentais un peu les choses, parce que c'est déjà celui-là, c'est la prière d'intercession, c'est pas pour lui. C'est pour les uns les autres. Mais là, c'était s'approcha, c'est le pour approcher, c'est le quand. On supplie à quelqu'un, on dit pour aux autres, vraiment, notre souhait, vraiment, il faut dire avec supplication.
C'est
pour ça.
Et peut-être que justement ça rejoint ce qui sera un peu un parallèle en Exode chapitre 3. Quand Dieu va dire « J'ai entendu le cri de mon peuple monter vers moi », c'est aussi une sorte d'intercession. C'est qu'à un moment donné, cette clameur devient suffisamment forte pour qu'il y ait aussi une prise de conscience collective, ou que certaines personnes se disent. C'est exactement ce qui s'est passé en fait avec Martin Luther King. Martin Luther King ne s'est pas dit un matin « Tiens, je vais militer pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis ». Il y a eu l'affaire de Rosa Parks à Montgomery. Et puis, des responsables de son église ont dit « Martin Luther, tu ne peux pas faire autrement que de te saisir de cette affaire et de la porter devant les faces de l'Éternel, devant le Congrès américain, devant l'opinion publique. » Et l'intercession, c'est aussi des personnes qui aident certains responsables à assumer leurs responsabilités. Ou des responsables qui aident les membres de l'opinion publique à prendre conscience de telle ou telle situation et de pouvoir du coup intervenir en fonction de leurs possibilités. Voilà, la fois prochaine, je crois que c'est avec Paul, et là c'est la prière qui marche pas.